Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Dans une poignée de secondes, on va recevoir l'équipe de Montmartre, la série événement qui débarque ce soir sur TF1, le réalisateur Louis Choquette, l'une des créatrices justement et scénariste Brigitte Bémol, et puis deux des comédiens sont avec nous, Roxane Turmel et Axel Mandron, qui viendront nous parler de Octave et de Madeleine dans la série. Et dans nos coups de cœur télé cette semaine, on parlera également de la série Les Sentinelles qui débarque ce soir sur Canal+, le réalisateur des 4 premiers épisodes, Thierry Poirot, sera avec nous accompagné de Pauline Etienne, Louis Pérez et Thibaut Évrard. Un rendez-vous à ne pas manquer. On parlera également de la série Enquête en famille qui débarque jeudi sur TF1. Bernard Lecoq sera notre invité exceptionnel pour en parler. Et puis en fin d'émission, on va consacrer une page spéciale Moi qui t'aimais, le film là qui parle de la romance entre Simone Signoret et Yves Montand, un film de Diane Curis qui sort mercredi au cinéma. Diane Curis sera là avec Roche Dizem. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Et puis en exclu podcast, aujourd'hui, on va parler de Bistronomia qui vient tout juste de sortir sur la plateforme France.tv avec sa créatrice Marie-Sophie Chambon, le réalisateur Anthony Georges ou encore deux des comédiennes, Yoa Angelis Chikaya et Louise Labeck seront avec nous. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Voici tout de suite notre spécial Montmartre.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial Montmartre. C'est ce soir, c'est l'événement sur TF1. On a beaucoup de chance, on a toute une partie de l'équipe qui va venir défiler dans l'émission. À commencer par la scénariste Brigitte Bémol, qu'on adore. À l'origine de Je te promets déjà. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Le réalisateur Louis Choquette qui a fait un travail remarquable. Bonjour Louis, merci d'être là.
Bonjour.
Et dans un instant, on va être rejoint par Roxane Turmel, par Axel Mandron du Beau Monde dans l'émission aujourd'hui qui va défiler. Alors déjà, je vais m'adresser un petit peu à la scénariste parce que l'idée de Montmartre, elle est venue comment ça arrivait tout ça, Brigitte, raconte-nous.
Alors en fait, c'est quand l'aventure Je te promets s'est arrêtée. En fait, on nous a demandé de repenser une série pour proposer un gros projet et il y avait énormément d'idées qui étaient sur la table. Vraiment énormément de choses. Et moi, il y a un mot qui m'avait parlé, c'était Moulin Rouge. Et je viens de l'univers de la danse. Et du coup, on savait déjà qu'on avait envie de faire une série historique. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur le Moulin Rouge, les cabarets, parce que le spectacle, ce qui se passe derrière les coulisses, tout ce monde du show must go on, en fait, ça me parlait sur le plan humain. Parce que un des trucs qui me tient à cœur dans mon petit théâtre personnel, c'est que nous sommes surtout ce que nous cachons. Et que je trouve que la reine, en fait, du spectacle et du cabaret, c'est ça. C'est toujours le spectacle sur scène, la joie qu'on donne aux autres, et puis derrière, on pleure en coulisses. J'ai découvert en fait qu'il y avait eu, en 1897-98, des scandales à ce moment-là, dans des cabarets, où des femmes s'étaient montrées nues. Il y avait eu un premier scandale qui était au bal des Quatre Arts. C'était des étudiants des Beaux-Arts qui faisaient des soirées toujours régulière, mais tantôt à la Nouvelle Ève, tantôt au Moulin Rouge. Et au Moulin Rouge, il y avait eu un scandale parce qu'ils avaient fait une soirée égyptienne avec des Égyptiens qui défilaient comme ça, une espèce de parade majestueuse, et une Cléopâtre nue, entièrement recouverte d'or, portée sur un plateau. Et ça avait fait un scandale pas possible. Et en fait, le Moulin Rouge a été fermé illico, et ils s'en sont sortis parce qu'ils avaient des relations, mais aussi parce qu'ils ont dit, mais en fait, elle était immobile, et parce qu'elle était immobile, elle était exactement comme les beautés nues qu'on peut admirer au Louvre. Et donc, on est du bon côté de la morale, et donc, on ne doit pas être fermé, et ils s'en sont sortis comme ça. Contrairement à une autre jeune femme qui a fait un spectacle qui s'appelait Le Coucher d'Yvette, et qui était à l'actuel Café de la Danse, et qui se déshabillait, c'était une des premières effeuilleuses, qui a fait, elle se déshabillait, elle allait dans sa chambre, elle finit nue, elle se met au lit. Ça a fait un scandale, le truc a été fermé pendant un an. Et donc là, en fait, quand j'ai lu ça, d'un coup, tout s'est percuté dans mon cerveau et je me suis dit, oui, nous sommes surtout ce que nous cachons, et même quand on se montre entièrement nu. Et nous, les scénaristes, on cherche toujours les paradoxes. Parce qu'au fond, en fait, on peut même se montrer entièrement nu et avoir derrière des dessins, en fait, qui sont très, très différents. Et tout est parti de là. Et moi, immédiatement, j'avais l'image de ce père qui se faisait assassiner et de la fratrie qui était arrachée les uns aux autres. Et avec Julien, on a construit à partir de là toute la reine, tous les personnages qui ont tous des choses à cacher. Tout le monde vit dans un monde qui est pas bâti. On a tous des portes qui se ferment. On est tous jamais assez bien pour quelque chose. Et cette série, elle se veut lumineuse parce que ça montre quand on réalise ça et qu'on est prêt à faire ce pas de côté et d'assumer qui on est vraiment, alors on peut aller au bout des choses et peut-être avoir une vie heureuse, au fond.
Et ça va être le personnage de Céleste, hein, évidemment, qui va être au centre de tout ça, qui va assister à l'assassinat de ses parents et qui va, en fait, vouer sa vie à tenter de retrouver son frère et sa sœur, avec de l'aide, évidemment, avec le personnage d'Hugo Becker, par exemple, aussi. Et puis, ça va très vite, et ils vont très vite se retrouver, tous. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et on va découvrir au fur et à mesure qu'il y a énormément de secrets autour de tout ça. Faire une fiction en costume, faire une fiction d'époque, Louis, est-ce que ça a quelque chose d'hyper excitant?
Ah ben c'est sûr, il y a vraiment une espèce d'écho avec notre monde moderne, à la fois, qui est très important, évidemment, mais il y a aussi un côté un peu romanesque, le fait d'être en costume. On s'est beaucoup, en fait, attardé à garder un aspect assez moderne, même dans ces costumes-là, et surtout dans les spectacles, parce que Montmartre met en scène quand même 4 spectacles.
Il y a des chorégraphies magnifiques.
Des belles chorégraphies, et on a voulu quand même donner, parce que si on gardait que, par exemple, le type de danse qu'on faisait à l'époque, ou le type de musique qu'on faisait dans les cabarets à l'époque, c'est un petit peu moins sexy pour le spectateur de 2025, donc on a voulu être au goût du jour, donner des références très très modernes à notre compositeur. Par exemple, j'ai demandé de créer une musique à partir de Fatboy Slim, qui est très d'actualité, mais en gardant l'instrumentation de l'époque. Alors tout l'aspect, justement, de faire une série historique, mais en gardant cette espèce d'aspect, même dans l'aspect formel, en fait, de la série, c'est-à-dire la façon de la filmer, la façon de faire la musique, la façon de créer les chorégraphies, de garder le spectateur d'aujourd'hui en haleine avec tout ça.
C'est ça que j'ai trouvé énorme, c'est parce que la définition du quand on n'a pas l'argent, on a des idées. C'est vrai que visuellement, c'est très beau, ça peut nous faire penser au bazar de la charité, à des grandes fictions comme ça en costume. Et pourtant, voilà, il a fallu trouver des parades parce que c'est pas le même budget non plus. Et pourtant, visuellement, il y a des chorégraphies, il y a des décors qui sont magnifiques. Il y a eu 2 jours de tournage aussi à Montmartre. J'imagine la difficulté que ça peut être à tourner dans un endroit aujourd'hui qui est devenu si touristique finalement.
Bah en fait, oui, évidemment, Montmartre c'est l'icône. Montmartre c'est une image, ça évoque une image pour tout le monde sur la planète. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher, de garder cet esprit le plus pur possible, tout en étant évidemment en 1899 et en arrivant à garder en image, par exemple, le Sacré-Cœur, par exemple, les grands escaliers qu'on connaît bien de Montmartre. Mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il reste très peu d'angles, de points de vue qui n'ont pas été affectés par la modernité. Donc, effectivement, on a eu que 2 jours de tournage, mais très intense. On peut voir, par exemple, la rue de la Bonne. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées, dont un baiser, sans trop tout spoiler, mais un baiser un peu mythique entre 2 personnages importants de la série, qu'on a tourné là, juste derrière le Sacré-Cœur. Et aussi plusieurs scènes dans les escaliers qui ont nécessité d'ailleurs beaucoup beaucoup de d'infrastructures autour de nous pour protéger le plateau parce qu'il y a trop de touristes, il y a trop de monde et tout. On avait 60 de bloqueurs pour empêcher les gens de passer pour garder le plateau de tournage tournable en fait.
Ça a dû être parfois compliqué. En tout cas, on va découvrir le résultat ce soir à 21h10 sur TF1 avec les deux premiers épisodes. Il faut savoir qu'il y a énormément de beaux personnages et que si vous aimez le romanesque, si vous aimez tous les codes de la saga, si vous aimez aussi les enquêtes, il y a plein de secrets qui vont être dévoilés, des personnages qui vont s'avérer très ambivalents. Vous allez découvrir en tout cas tout ça tout au long de ces 4 semaines qui s'annoncent intenses le lundi soir. On va recevoir Roxane Turmel, Axel Mandron. Dans quelques instants, on continue évidemment à parler de Montmartre. On va écouter la bande-annonce si vous voulez bien. Merci Louis en tout cas et merci Brigitte d'avoir été avec nous pour introduire cette spéciale.
Merci.
Merci Alain.
Comment vous appelez ?
Céleste Sandier.
Je te laisserai pas faire ça.
J'ai pas le choix. Il me faut de l'argent, beaucoup et maintenant.
Tu vas trop loin. Tu vas foutre toute ta vie en l'air.
Quelle vie ? Mon père a été assassiné. J'étais séparée de mon frère et de ma sœur. C'est la première piste sérieuse pour retrouver ce qui reste de ma famille. Alors allons-y. J'ai retrouvé mon frère et ma sœur. Ça fait 23 ans que j'attends ça.
J'ai tout perdu. Vous vous rendez compte de ça ou pas ?
Il y a des choses qu'il vaut mieux.
Voilà, Montmartre, en tout cas, c'est l'événement. C'est ce soir sur TF1 à 21h10. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes. Et on a hâte. Et je peux vous dire que s'il y en a deux qui ont hâte aussi, c'est Roxane Turmel et Axel Mandron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les deux. On va parler évidemment de Octave et bien sûr de Madeleine. C'est une saga romanesque. Évidemment, il y a tellement de belles choses, des costumes, etc. Avant de rentrer vraiment dans le vif de vos rôles, qu'est-ce qui vous a plu à tous les deux? Roxane.
C'est un tout, déjà c'est une série d'époque et puis là c'est la belle époque, donc c'est très riche. Paris est en ébullition, faire une série d'époque en costume, avec les coiffures, tout ça c'est dingue. Et le rôle de Madeleine qui est un rôle haut en couleur, qui est très attachante, très touchante et en même temps assez drôle malgré elle. Et c'est vraiment la meilleure amie de Céleste, elle est très dévouée, c'est une amie dévouée, une amie fidèle, et c'est sa sœur de cœur, et voilà, c'est une belle relation qu'elles ont toutes les deux, ça parle de sororité aussi.
Tu connais ça un peu, c'est presque pas un rôle de composition, dis donc.
Oui, disons que j'ai grossi quelques traits de ma personnalité, mais c'était tellement bien écrit par les auteurs, voilà, j'ai eu une très belle partition dans ce rôle de Madeleine. C'était un grand kiff de jouer ça, il y avait quasiment rien à faire, tout était écrit, quoi.
C'est chouette quand c'est comme ça. Axel, on va parler d'Octave dans quelques instants, mais juste avant, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet ?
C'est pas tous les matins que tu te réveilles, que tu l'ouvres un scénar et qu'en fait tu découvres que ton personnage, bah, il vient de rien, mais qu'en fait il découvre qu'il a une mère qui est toujours vivante alors qu'il pensait qu'elle est morte, qu'il découvre un demi-frère, qu'en fait il va faire des combats de boxe. Enfin, je sais pas, il y a un truc tellement riche sur ce personnage-là qui m'a emporté, quoi. Moi, c'est très rare. Où j'ai des personnages où je dis ça, tu vois, mon personnage d'Octave dit à un moment un noir vaut 3 fois moins qu'un blanc, et porter ça,
c'est hyper puissant.
C'est hyper puissant, tu vois. Et moi je défends ça et j'ai tellement fier de pouvoir porter ça sur une, bah justement, tu vois, sur une grande chaîne comme TF1, dans une grande aventure comme ça romanesque. Je passe de la boxe à la course de voiture, enfin au record automobile, enfin je sais pas, il y a quelque chose de ouais, je suis tellement fier et tellement très heureux de défendre ça, quoi. Voilà.
Alors, on va parler de Madeleine, évidemment, un petit peu plus en profondeur. C'est la meilleure amie de Céleste, celle sur qui elle peut toujours compter. Elle est toujours là pour elle. C'est un lien indéfectible, il y a une sororité. Il a jamais aussi bien porté ce nom, sororité, quand on voit ces deux personnages.
Ouais, c'est très beau la relation qu'elles ont toutes les deux, parce qu'elles sont là l'une pour l'autre. C'est-à-dire que autant Madeleine est au service de Céleste, mais Céleste aussi écoute Madeleine, elle est là pour elle. Et donc voilà, c'est deux sœurs de cœur qui sont liées, pas par le sang, mais la famille, c'est pas que le sang, c'est pas que les liens du sang. C'est une très belle amitié entre les deux, et puis oui, voilà, c'est un rôle qui est haut en couleur. Moi en plus, je suis donc danseuse dans la série, je ne le suis pas du tout dans la vie. J'ai été coachée grâce à notre chorégraphe génial Johannis, et du coup oui, je suis vraiment partie de zéro, c'est-à-dire que j'étais gardienne de hand, moi, quand j'étais ado. J'ai pas pris un cours de danse de ma vie, et là faire la danseuse de cancan, bon, c'est un peu cardio, mais c'est aussi, voilà, faut de la souplesse. Et donc j'ai été coachée.
T'es prête pour danser avec les stars ?
Je suis prête pour danser avec les stars, je ne sais pas, mais moi je suis prête à relever tous les défis, ça c'est sûr. En tout cas là c'était un beau défi et qui a été relevé. Là on m'a même demandé si j'étais danseuse de formation, donc franchement ouais, je suis très 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 heureuse et très fière de ce que j'ai pu faire dans cette série.
En tout cas, l'illusion est parfaite. Axel, on va parler d'Octave. Comment tu le définis, toi, Octave?
Waouh, quelle question. Je le définis comme quelqu'un qui a de l'ambition et qui il a du cœur, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment très aimant vis-à-vis de son demi-frère qu'il vient de rencontrer. C'est quelqu'un qui vient de tout en bas et qui a l'ambition de monter haut, mais passant par les bons chemins, quoi. C'est quelqu'un de juste et c'est quelqu'un de engageant dans ses relations. Mais tu vois, là, on parlait de ça avec Roxane, avec la danse, mais moi, c'est pareil. Tu vois, on a fait de la boxe. Moi, j'ai fait un an de boxe, mais vraiment, tu vois, un peu en amateur. J'ai fait un peu de capoeira. Et là, préparer ce combat, ces combats, c'était quand même assez fou, quoi. Je fais un petit salut à Manu Lanzi, qui est le préparateur qui fait tous les grands films, tous les combats dans les grands films. Et qui m'a appris, on a fait des super sessions de combat et j'ai pris goût à ça, quoi, tu vois. Et même la prod qui s'est engagée, parce que moi j'ai fait de la préparation physique, et ça donne quelque chose de qualité, en fait, c'est ça que
on
je veux dire.
On a été très bien entouré, en fait, très bien. La production pourrait très bien pu dire, bon bah on vous met une doublure, c'est quelque part un peu plus simple, et en même temps, ils nous ont permis de relever le défi, ils nous ont fait confiance.
Et c'est plus intéressant pour vous en plus.
Ah bah oui, bien sûr, apprendre le cancan, le French cancan, faire un combat de boxe, à la Rocky, enfin, c'est pas tous les jours qu'en tant qu'acteur qu'on a la chance de pouvoir faire ça, c'est sûr.
Ça aide quand on tourne une fiction en costume, justement, de rentrer plus vite dans le personnage dès le matin quand on est maquillé, qu'on est habillé, qu'on est pomponné. Est-ce que ça aide vraiment tout de suite à rentrer dans Madeleine et dans Octave?
Ah ouais,
quand ça sert un peu.
Oui, non. Non, je sais pourquoi tu dis ça. Non, oui, c'est parce que oui, effectivement, on est corseté. Alors moi, j'avoue que j'ai du mal à être. Je suis un peu claustro, donc moi, dès que je suis enfermée dans des fringues, c'est dur. Mais c'est génial. C'est comme quand on est petite fille et qu'on se déguise, qu'on prend la robe de sa mère ou qu'on se déguise. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamine. Et là, en fait, j'ai vraiment retrouvé ça, le plaisir de des habits d'époque, un corset, les petites chaussures à talons, les coiffures incroyables. Oui, parce que il y a Florence Clamont qui a fait un travail incroyable pour les costumes et puis aussi nos maquilleuses, nos coiffeuses, c'est vraiment génial de pouvoir porter les costumes, voilà.
Ouais, moi je dis toujours c'est les chaussures et le manteau, tu vois, tu rentres dans tes chaussures et ça change tout, quoi. Enfin, vraiment la paire de chaussures pour moi c'est hyper important et je me suis j'en ai tout de suite parlé avec Florence. Je voulais trouver cette vraie paire de pompes, quoi. Parce que lui, Octave, il vient vraiment du bas, quoi. C'est, tu vois, il a grandi dans la Villette, quoi. Il a vraiment grandi dans les quartiers populaires. Et il fallait raconter ça, quoi. Et c'est un gars qui fait des charrettes, donc il faut qu'il a un style. Il a pas d'argent, donc il a vraiment genre trois tenues, tu vois, avec lesquelles il compose. Et en même temps, faut que ça raconte le travail. Et donc il y avait les chaussures et le manteau. Parce que les manteaux, bah, ça donne les épaules, quoi. Il y a quelque chose de posture, de qu'est-ce que t'as sur toi tous les jours, comment tu te tu traverses la vie avec ces vêtements. Et donc ouais, il y avait quelque chose comme ça. Trouver sa démarche dans les chaussures.
On termine par vos projets. À tous les deux, dans quoi on va vous voir bientôt, Axel? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent?
Bien sûr, là il y a le film Mac Walter sur Amazon, le film de Mr V réalisé par Simon Astier, dans lequel c'est une grosse comédie, on s'est régalé avec je nomme les copains Vincent De Dienne, Géraldine Nakache, produit par Jonathan Cohen. Voilà, il y a ça et bientôt la saison 2 de BRI pour Canal+, où je joue le nouveau méchant de la saison 2 de BRI.
On a hâte de découvrir la suite. Roxane, t'as fait partie évidemment de la nouvelle mouture de Plus belle la vie encore plus belle, puisque t'es revenue dès les premiers épisodes pour notre plus grand plaisir. Sylvia is back. Est-ce que un retour pourrait être possible? En tout cas, si on te propose une belle arche ou une belle histoire pour un retour sur événementiel, sur un mois, deux mois, trois mois, est-ce que t'es partante?
Oui, tout dépend de l'intrigue, mais évidemment, moi, Plus belle la vie, c'est une famille. J'ai adoré tourner dans Plus belle la vie. Moi, c'est mes premiers pas en tant qu'actrice à l'écran, parce que je viens du théâtre, moi, surtout. Et donc, moi, j'adore, c'est une famille. Après, c'est vrai que là, j'ai d'autres projets, mais voilà, à voir. Là, je suis surtout sur Brigade du Fleuve, qui est une collection France Télévisions.
Dont tu es en train de tourner le troisième épisode.
Exactement. Là, on est en train de le tourner et on s'éclate. Les deux premiers ont été réalisé par Bénédicte Delmas et là c'est Nicolas Guichetot. Voilà, c'est une belle collection France Télévisions et une équipe que j'adore retrouver avec Thomas Jouannet, mon binôme, mais aussi voilà, on est six, Robiskinazi, Jeanne Bourneau, Pasquale Edinka, Ibrahim Coma. Et du coup voilà, on s'éclate et on est sur la Loire et voilà, donc déjà voilà, on est en tournage et vous allez bientôt voir le 2 à mon avis.
Et ben on a hâte et tu sais bien, on te passera un coup de fil selon comme d'habitude. Merci en tout cas tous les deux d'avoir été avec nous, mon Marc. c'est ce soir, c'est à 21h10 sur TF1, la fiction événement de cette saison, dont vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes. C'est beau, vous allez voir, c'est romanesque. Il y a tous les ingrédients pour que, en tout cas, pour que vous puissiez passer une super soirée sur TF1. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Merci à tous les deux.
Merci Alain.
Merci beaucoup. À bientôt.
C'est le moment d'évoluer. On va y arriver, on n'a pas le choix. Une femme qui ose a en elle la force de vivre la vie qu'elle désire. Nos vies vont changer.
Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant pour notre spécial Les Sentinelles. Thierry Poirot, Pauline Étienne, Louis Pérez et Thibaut Évrard nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Il est temps de repartir à zéro, de ne faire qu'un avec soi, de ne plus vivre pour de faux. Si je me croisais, enfant ou ado, je me prendrais dans les bras, je dirais sois ton propre héros. Fais du bruit pour mieux entendre tes rêves. Les réponses que tu cherches se trouvent dans ton écho. Si tu tombes, sache que dès que tu te relèves, tes bleus trapèleront le ciel, alors regarde en haut. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. J'étais bloqué dans un tunnel sans fin. Mais c'est dans le noir complet que la lumière fait son chemin. J'ai coulé pour trouver le sable fin. Les étoiles naissent en secret. Le soleil revient chaque matin. Tu pars des mondes entiers sous tes paupières. Mais tes yeux seront ta porte vers les lendemains. T'as touché le fond pour laver tes poussières. Mais ce vide a fini par colorer ton destin. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé les jamais en toujours. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé ce soir est consacré à la série Les Sentinelles qui débarque sur Canal+ avec les deux premiers épisodes. Et on a justement le réalisateur des quatre premiers qui est avec nous, Thierry Poirot. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis on a le personnage de Marthe qui est avec nous, Pauline Étienne. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci d'être là. On va voir Louis Pérez qui va nous rejoindre également dans quelques instants. On va parler de cette série que j'ai trouvée justement hyper culottée. Parce qu'on mélange vraiment du film historique, du film de guerre et de la science-fiction, du fantastique. Il y a de la romance. Il y a plein de sujets différents qui viennent se percuter. Et j'ai trouvé ça, moi, hyper ingénieux, en tout cas, de faire ce genre de choses qui n'avaient jamais été fait encore.
Merci.
Est-ce que c'est excitant, justement, d'adhérer à un projet comme ça, Thierry?
Ce qui est très excitant, c'est de refaire tout l'univers, au-delà même de raconter l'histoire, de rencontrer les acteurs, de travailler sur un sujet. C'est qu'il y a tous les corps de métier. Enfin, le décor, la lumière. On a un énorme travail qu'on n'a pas, on a l'habitude de le faire, mais pas tant que ça, notamment dans le cinéma et la série française. Au-delà des moyens, c'est d'avoir des univers imaginaires où on peut vraiment travailler sur tout l'imaginaire, que ce soit les décors, les détails. C'est un peu comme une chambre d'enfant quand on reconstitue des maquettes. Donc c'est assez excitant de pouvoir le faire, de se plonger dans cet univers, et ça a été très agréable à faire.
Alors, on va parler évidemment de ce long plan séquence hein, sur le premier épisode qui, j'imagine, pour un réalisateur, a dû faire passer quelques nuits blanches. On va en parler dans un instant. On va parler du personnage de Marthe. Pauline, déjà.
Marthe, c'est donc une femme scientifique qui travaille dans le laboratoire qui a du coup créé le Dixonal, qui est ce sérum qui rend les soldats surpuissants. Donc, ils font des tests sur des soldats et donc elle fait partie de l'équipe qui fait ce sérum.
Alors, la particularité, évidemment, de cette série, c'est qu'on y retrouve un soldat incarné par Louis Pérez qui est extrêmement abîmé par une bombe sur laquelle il a explosé littéralement en plein vol, c'est le cas de le dire. Et donc, il va se retrouver hospitalisé, il va avoir un choix à faire entre mourir, tout simplement, ou alors tenter de se faire inoculer, justement, ce fameux sérum. Et qui n'est pas sûr, évidemment, qu'il tienne avec ce sérum, puisque très peu de personnes sont compatibles avec lui. Et ce sérum, si en tout cas il fonctionne, permet de décupler les forces de ses soldats. Est-ce que j'ai bien résumé, Thierry?
Vous avez bien résumé. Après, ça cache aussi un peu chez le personnage de Gabriel. C'est au-delà du dictionnal, c'est qu'il cache lui la spécificité en fait qu'on retrouve, parce que ça cache une autre chose qu'on retrouve dans la série, sur le fantastique. C'est pas que le dictionnal, il y a aussi des pouvoirs qui se cachent. Donc en fait, lui, il a une spécificité, ce personnage, et que le dictionnal va révéler en fait. C'est assez, on est dans vraiment dans la tragédie grecque classique en fait du personnage qui doit combattre. Mais c'est vrai, c'est Ulysse qui doit, pour retrouver sa femme, retrouver le chemin de chez lui et son propre combat intérieur de pouvoir, voilà.
Donc, il va le croire mort en plus, c'est assez tragique de découvrir ça, et au fur et à mesure de l'histoire. Évidemment, il va y avoir de nombreux rebondissements. Alors c'est vrai que la série s'ouvre sur un plan séquence avec des scènes de guerre assez apocalyptiques et qui nous plonge tout de suite dans l'histoire.
Eh bien oui, alors faut savoir que cette scène en fait au début on s'est battu pour la faire parce qu'on devait, pour des raisons financières on ne devait pas la faire.
Tu m'étonnes.
Tout au long du tournage, on pouvait pas faire un film de guerre sur la 14-18 sans montrer un No Man's Land. Moi-même, je me disais, je peux pas faire un film en montrant que Paris, des laboratoires, ça m'aurait, au-delà d'une envie, on s'est dit, il y avait une image épinale de la guerre qu'il fallait montrer. Donc, on s'est battu pour la faire. En fait, on a trouvé, étrangement, ça s'est fait un peu par hasard aussi, c'est que notre directeur de prod a trouvé un terrain de cross, en fait, de camion, qui était totalement abîmé. C'est un décor qui a été trouvé tel quel, après on a remis dans les poteaux. Et après, moi, j'ai trouvé l'idée, parce que c'est souvent ça, c'est le manque de moyens qui fait les idées, c'est qu'on pouvait pas monter non plus une bataille avec tout le personnage. Donc, j'ai trouvé cette idée de le faire ramper avec mon chef opérateur Mathias Boucard, de le faire ramper par terre. Et c'est pour ça qu'il rampe par terre en fait, parce que je pouvais, comme ça je montrais presque rien du décor. Et c'est souvent les idées, et c'est un long plan séquence, on triche un peu, on fait croire que c'est long, que c'est grand, alors que le décor était petit. Mais c'est souvent le manque de moyens qui nous fait réfléchir à des idées. Cette scène a été tournée vraiment tout à la fin. Oui, et les gens étaient quand même non seulement assez contents, il y avait un peu un feu d'artifice, y compris pour les gens qui faisaient les explosions.
Allez, très impressionnant, oui.
Bah, ils m'ont donné, moi j'en voulais toujours un peu plus, je suis réalisateur,
c'est tout à fait. C'est Monsieur Plus.
Et non, mais tout le monde est très heureux de finir, c'est fini un peu comme un. C'était vraiment la dernière scène que moi j'ai tournée en fait. C'est vraiment la dernière scène qui est la première scène du film, et ça a été fait vraiment dans une énorme joie aussi, donc d'où très généreux auprès des gens, de tout le monde avait envie. Et ça s'est passé sous une. Très pluvieux, parce que c'est une journée en mois de juillet qui a été mais terriblement pluvieuse, donc que ce soit moi ou Edouard, parce qu'on se servait du même décor, on a baigné dans la boue, ce qui était très réaliste pendant 3 jours en fait.
Voilà, on dit chez l'humain que quand on n'a pas la tête, on a les jambes, et au cinéma, quand on n'a pas l'argent, on a les idées.
Bravo.
C'est pas mal?
C'est pas mal, très bien dit.
Pas mal. Bon, ce personnage de Marthe, comment on pourrait la définir justement, Pauline?
Donc c'est une femme qui est très tiraillée entre sa foi, son éthique et par sa passion de la science. Donc il y a un côté, il y a sa carrière, c'est une femme qui est très intelligente, je pense, et c'est une femme, donc à cette époque-là, je pense que c'est assez rare de voir des femmes comme ça, scientifiques, qui soient aussi qualifiées qu'elle. Et donc voilà, pendant toute la série, elle va osciller entre sa morale et sa carrière. Je pense que c'est comme ça qu'on peut la définir.
C'était une époque où on faisait la guerre, les gens, donc on était prêts à faire des efforts, on était prêts à faire des sacrifices. C'était une autre époque aussi où il y avait des gens qui étaient prêts à faire des sacrifices, tuer des gens, c'était pas la même chose. Les personnages féminins, on a fait quand même très attention, parce qu'il y en a peu, hein. C'est quand même un personnage de film de guerre, donc d'autant plus de garçons.
La femme de Gabriel, il y a Marthe, voilà, il y a quelques personnages comme ça clés.
Ils sont deux personnages, en fait, pas des antithèses, en fait, qui se complètent totalement. Et Marthe, moi, je peux pas dévoiler, mais quand même un personnage super intéressant, parce qu'il y a quand même qu'elle a presque la plus d'évolution. Parce qu'elle oscille entre la noirceur et le bien, et je peux pas dire, mais c'est très surprenant sa trajectoire. Sa trajectoire est surprenante, et on peut pas croire que ce petit bout de femme qui est là, qui a l'air plus timide au début, un peu réservé, va nous donner tout ce qu'il va faire par la suite.
Marqué par l'état aussi dans lequel arrivent les hommes, on sent, et malgré tout, qu'elle se reprend très vite, parce que il y a la mission qu'on lui a confiée.
Oui, elle a un cœur malgré tout. C'est la première qui dit il a une famille, etc. Mais pour revenir sur les personnages féminins, je trouve que c'est des chouettes personnages féminins parce que c'est pas la veuve éplorée qui va juste être larmoyante et à chercher son mari qu'on a dit qu'il était mort, etc. Et du coup, je trouve que les personnages féminins de cette série sont assez intéressants.
Alors, on a essayé de faire attention parce que c'est très masculin quand même, et je ne serait-ce que pour
en lecture,
c'est très masculin, et on s'est dit non mais faut vraiment pousser. C'est venu, alors c'était déjà un peu écrit évidemment dans le scénario, enfin totalement écrit, même on les a vraiment poussés ces personnages, et on n'a pas hésité à aller dans la noirceur du personnage. Le premier épisode est comme une introduction, donc c'est un peu surprenant parce que oui, on a l'habitude de voir un pilote qui raconte tout d'un coup et tous les enjeux. C'est vrai que les enjeux arrivent
fur et à mesure.
Au fur et à mesure, surtout dans le deuxième.
Toutes les pistes. Ça ouvre toutes les pistes, toutes les histoires sont ouvertes.
Oui, et c'était. Toutes les pistes sont ouvertes. Et on avait vraiment envie d'installer les gens. Moi, j'avais vraiment la volonté d'installer les gens dans un univers. Ça prend un peu de temps. C'est un peu surprenant. Le rythme est un petit peu plus lent sur le premier. Mais pousser. Faut voir le deuxième. Et le deuxième, évidemment, ça part. On a les Sentinelles. Mais on est vraiment aussi dans ce que j'appelle en termes de super-héros, c'est les films origines. Où, on passe plus de temps à raconter le avant que le après.
On va écouter la bande-annonce, évidemment, puisque les Sentinelles débarquent ce soir à 21h sur Canal+. Merci Pauline, merci Thierry d'avoir été avec nous. Louis Pérez et Thibaut Évrard nous rejoignent dans un instant. On continue à en parler, c'est notre spécial. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Nous sommes très proches de perdre cette guerre.
Qu'est-ce que je fous ici? Vous faites partie d'un programme qui est classé top secret.
Nous cherchons des informations en rapport avec le programme Sentinelle.
On se charge.
Ta femme ne peut pas savoir que tu es en vie.
Notre truc me rend fou. Vous jouez avec la vie des gens, mais vous savez rien.
Allez, de retour pour notre spécial des Sentinelles. Louis Pérez et Thibaut Évrard sont avec nous et dans la bonne humeur aujourd'hui. Bonjour Louis.
Bonjour, ça va?
Bah oui, ça va très très bien. Écoute, depuis Sentinelle Ukraine, écoute, on se retrouve. Parce qu'en fait, oui, s'il n'y a pas Sentinelle dans le titre, il n'y va pas sur le projet, c'est ça?
C'est contractuel, donc il y a un Sentinelle, tu m'appelles.
Exactement. Thibaut Évrard est également qui joue Djibouti dans la série. Bonjour Thibaut.
Salut.
Merci d'être là tous les deux. Alors c'est vrai que Louis, ce personnage de Gabriel, alors vous allez voir ce soir, il va passer un petit peu par tous les états. C'est hyper intéressant de voir une série d'incarner un rôle comme celui-là, puisque tu joues le rôle de Gabriel qui a sauté en gros sur une bombe en plein champ de guerre et qui va se voir en tout cas essayer d'inoculer un espèce de sérum qui va lui faire décupler ses forces. Mais va-t-il le supporter? Est-il compatible? Va-t-il intégrer les Sentinelles qui va voir en tout cas cette force de soldat qui va peut-être changer le visage de la guerre? C'est ce qu'on va découvrir ce soir dans les Sentinelles. Est-ce que c'est bien résumé?
Parfaitement, j'ai rien à dire. Bravo.
Bon Louis, qu'est-ce qui t'a fait y aller?
Beaucoup, beaucoup de choses. En fait, les promesses de voir ce qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire du fantastique mêlé à du dramatique, de l'espionnage, de l'action. Et je pense sincèrement que, enfin j'espère qu'on a tenu toutes ces promesses.
Les premières scènes sont très très impressionnantes et alors, on te reconnaît absolument pas. C'est assez dingue le travail de maquillage etc. qui a dû être fait, est totalement dingue.
En fait, je suis très fier de faire partie de cette série, de cet objet, parce qu'on voit vraiment que c'est un travail d'équipe. On a tendance à l'oublier parce que c'est nous les acteurs qui avons le micro et qu'on nous, on nous interviewe, etc. Mais c'est vraiment une équipe. Et là, on le voit, que ce soit à la déco, au maquillage, au son, à l'image. Vraiment, chacun a mis du cœur à l'ouvrage et ça se sent.
Alors Thibaut, ce rôle de Djibouti, raconte-nous.
Ouais, Djibouti, du coup, sergent chef de cette unité spéciale qui s'appelle les Sentinelles, dans laquelle Gabriel Ferraud va tenter de s'inscrire et va s'inscrire au mieux par la suite. C'est ça, c'est la Djibouti.
Comment tu le définirais, ce rôle, la Djibouti?
Djibouti, pour moi, c'est un violent au cœur tendre. C'est quelqu'un qui est dans les tranchées depuis qu'il a de 16 ans et qui n'a l'impression de pouvoir s'inscrire que là-dedans, qui n'est doué qu'à ça. Et au final, il crée des grandes amitiés, des grandes camaraderies avec des gens qui va peut-être dire au revoir le lendemain, malheureusement, comme ça peut arriver dans la série.
C'est devenu presque son quotidien.
C'est son quotidien. Il connaît que ça et il a la sensation de n'être doué que pour ça. Donc d'être né pour ça.
Louis, c'est vrai que cette série, moi, m'a marqué parce que on y voit de la guerre, de la romance, il y a tellement un mélange des genres. Qu'est-ce qui vous a séduit au premier coup quand vous avez lu le scénario? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, tous les deux?
Moi, quand j'ai reçu la proposition, en vrai, je me suis souvenu de la bande dessinée de Xavier Dorizon que j'avais lu, des dessins d'Enrique Bireccia, qui étaient forts, qui étaient sales, c'était du déchiqueté. Et puis après, à la lecture du scénario, il y a une forme d'excitation d'avoir l'occasion de s'inscrire dans un genre comme celui-ci en France qui pousse, qui chaque année on essaie, il y a toujours des projets qui arrivent et qui se tentent de s'inscrire là-dedans, c'est compliqué de faire du genre. Et que d'avoir la proposition comme ça et qui disent, en gros, moi, c'est arrivé assez tard, donc en gros, c'était dans un mois, on y va. Et excitation enfantine que d'avoir l'occasion de s'inscrire dans un rôle de soldat augmenté.
Louis ?
Non, mais je pourrais rien rajouter de plus intelligent parce que c'était limpide. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes ces promesses, de mélange des genres.
De tourner en costume aussi, c'est excitant. Toujours, on rend plus facilement dans le personnage.
Évidemment, le costume aide. L'époque aide. Et encore une fois, j'insiste sur le travail justement de toutes ces équipes qui ont rendu ça possible, au costume, au maquillage, à la déco, qui ont fait en sorte que ce soit vraiment un tremplin pour l'imaginaire, qu'on n'ait quasiment plus rien à faire en fait, que tout soit devant nous et palpable.
Louis, il y a quelques instants, Thierry nous disait que la première scène d'ouverture hein, de la série a été la dernière tournée pour lui. Comment tu l'as vécu cette scène-là qui est d'une intensité incroyable?
Mal.
J'en pouvais plus.
Moi, je me pose pas trop de questions sur un
tour. On souffre avec toi, hein, franchement, dans cette long plan séquence de 15 minutes. Là.
Ben voilà, c'est ça. En fait, je j'évite de ramener mes émotions personnelles sur le plateau. Donc là, juste, encore une fois, on parle de ces souvenirs d'enfance, d'excitation. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que de courir plein de désespoir pour
se ramper,
de ramper, etc., à travers un champ de guerre de 14-18. Voilà, c'est très excitant, c'est dramatique, et donc ça en est très excitant. Donc je l'ai ouais, plutôt bien vécu, et j'étais...
C'était mieux que ça soit à la fin
Je sais pas, non.
Du tournage non. Parce qu'on doit ressortir lessivé quand même.
Ah ouais, ouais, mais c'est de la bonne fatigue. On a l'impression du devoir accompli, quoi.
Thibaut, quelle est la scène la plus marquante pour toi?
En fait, il y a un plaisir parfois juste être acteur, on a l'impression c'est que d'être en action, mais il y a beaucoup de choses qui se font en réaction. Et moi, que de faire cette séquence où t'étais possédé par l'Ubermensch, de regarder le travail de l'autre et de regarder Louis Pérez à travers cette chose-là, que d'être animé et que d'être possédé par quelqu'un, c'est extrêmement agréable et jouissif que dans une position spectateur au sein d'un plateau et de le voir travailler cette chose, d'être possédé, c'était très fort.
Ce qui est marquant aussi, c'est vraiment quand on voit les veines qui ressortent de partout et tout, quand t'as visionné la série pour la première fois, montée, finie, étalonnée. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On se dit, c'est pas moi, c'est pas possible.
Vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est bien parce que du coup, les gens vont comprendre ce que je veux dire. Encore une fois, c'est une équipe extraordinaire. Donc quand j'ai vu toutes ces veines, je me suis dit, putain, le travail derrière de tout le monde qui ont rendu ça possible. Et effectivement, t'as raison, je me suis oublié. Ça, c'est très agréable parce qu'on c'est toujours très compliqué de se voir et de s'entendre. Mais là, je me suis oublié grâce à leur travail.
Ouais, c'est vraiment très, très impressionnant. En tout cas, vous allez voir, vous allez découvrir une série d'un nouveau genre. On termine par vos projets à tous les deux. Donc, est-ce qu'il y a un Sentinelle 2, s'il y a une saison 2, t'y vas?
Évidemment. Je viens de finir Les Misérables de Fred Cavaillé et j'enchaîne sur Podom de Léa Domenac.
Bien. Pour toi, Thibaut.
Et moi, j'ai terminé la série de Romain Graff qui s'appelle Uniforme, que j'ai tourné à Genève. Et puis, là, j'ai commencé la semaine dernière le tournage de la série Alice Guy, qui raconte la naissance du cinéma.
Ah ouais, ça va être beau. Ça aussi. On a déjà hâte de la découvrir, effectivement. Merci à tous les deux. Les Sentinelles, on le découvre ce soir. Ces deux premiers épisodes, c'est à 21h sur Canal+, et ensuite sur MyCanal, évidemment. Et puis, on vous souhaite plein de belles choses en tout cas pour que ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est du grand spectacle en tout cas. Merci à tous les deux.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Enquête en famille qui débarque sur TF1, nouvelle série inédite avec un très joli casting. Bernard Lecoq qui fait son retour sur la une. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous.
Eh ben bonjour Alain, ça va?
Ça va très très bien, moi je suis content de te retrouver et puis dans un tout nouveau projet, une toute nouvelle série sur TF1, Enquête en famille, qui va promettre de beaux moments je crois puisqu'on est vraiment dans de la comédie policière.
Ben là oui, c'est tout à fait épatant avec Naïma Rodrigue et Clémentine Cellari. Donc on fait un trio. Naïma est notre fille, elle est policière et Clémentine et moi on est quincaillers et on adore les films policiers, les romans policiers et on va se mêler des enquêtes de notre chère fille qui est donc capitaine de police. Donc on va lui mettre un peu le souk dans ses enquêtes. Donc c'est assez rigolo. Et c'est produit et dirigé par Dominique Farrugia, bien entendu, et Sophie Boudre qui sont partagés la mise en scène, Dominique ayant produit également la série, voilà, pour TF1. Voilà.
Alors parle-nous un peu de ton personnage à toi, justement, le rôle de ce quincailler.
Ben c'est un couple en réalité, et le quincailler là-dedans, il a une femme explosive, et en même temps, lui, il est un peu... c'est comme des enfants, elle et lui. Voilà, il continue de s'amuser, parce qu'il s'ennuie un petit peu à la quincaillerie, quoi, qu'il soit de bons quincaillers. Mais c'est surtout la passion qu'ils ont à la fois pour leur fille, et à la fois pour le métier qu'elle exerce. Et d'ailleurs, ils l'ont un peu, lui a un peu forcé la main en aidant à ce qu'elle soit mutée dans la grande ville à côté de leur quincaillerie, de façon à pouvoir profiter de ces enquêtes. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Et ça va évidemment secouer.
C'était tourné où?
Ça a été tourné à Rennes et dans les environs. Donc on y a passé 3 mois. Et parce que c'est 6 épisodes d'histoires différentes à chaque fois, donc ça sera donc diffusé
sur 3 soirées. Là, on va avoir 3 soirées.
Voilà, et donc avec 2 films différents chaque soir.
Vu le monde avec qui t'as tourné, Clémentine Célarier, vous étiez déjà croisée sur un plateau quand même.
Oui, oui, absolument. Mais je la connais depuis fort longtemps parce que quand elle faisait de la radio, je l'avais rencontrée comme ça chez les amis, et je trouvais que cette fille était absolument incroyable de vitalité, d'intelligence, d'invention, ça ne s'est jamais démenti. Et j'ai tourné avec elle sous la direction de Peter Kassovitz un film il y a quelques années, et on s'était évidemment entendu comme l'arbre en foire, et là se retrouver après quelques années, faire ce couple comme ça qui tout à coup est complètement une osmose de personnages enfantins et charmants, je crois, et un peu emmerdants pour leur fille, mais en tout cas fou d'amour pour elle. Donc je crois que c'est très amusant, oui.
Et puis du coup Naïma qui va rendosser pour la deuxième fois un rôle de capitaine de police après celui de Lisa dans Demain nous appartient, et journaliste avant dans Un si grand soleil, dans le rôle de Lucille. Naïma s'offre en tout cas un troisième grand rôle en télévision. Elle a une énergie redoutable, Naïma.
Alors énergie redoutable, sens de l'humour merveilleux, un sens du rythme. Elle a toutes ces qualités-là qui fait que à la fois elle peut jouer les choses d'une manière très juste, très réaliste et très très crédible, et dans sa fonction policière, et en même temps elle a le sens du décalage et de la vitalité comme ça nécessaire pour jouer la comédie, vraiment y donner cette impression comme ça où tout à coup le monde s'écroule à chaque instant. Elle est formidable, puis en plus elle a un charme délicieux, donc ça joue aussi beaucoup, c'est vrai, c'est très plaisant quoi.
Il y a eu des moments de rigolade quand on arrive à jouer des scènes avec Clémentine Célarier. C'est vrai qu'on la connaît quand même pour sa joie de vivre et sa bonne humeur aussi sur un plateau.
Ben, elle est extraordinaire parce qu'elle arrive, elle entre dans les choses d'une manière très très spontanée. Elle réfléchit beaucoup, elle travaille beaucoup, mais quand elle arrive sur les choses, elle s'empare des situations, et voilà, et tout à coup elle est généreuse, elle donne, et on entre en phase. Et là, je pense, tous les trois ensemble en particulier, c'est le plaisir qu'on partage de jouer la comédie ensemble, et elle a évidemment un sens inouï de ça, justement, de la comédie particulièrement, alors qu'elle fait par ailleurs des rôles qui peuvent être extrêmement profonds, dramatiques et sombres même parfois, et douloureux. Quand elle se lâche comme ça dans cette énergie et cette invention délicieuse, parce que elle est tout feu tout flamme quoi. Elle joue comme ça des personnages très très extravertis d'un côté, puis en même temps complètement enfantin. Donc ça marche bien quoi.
S'il y a saison 2, vous y retournez, c'est prévu.
C'est sûr qu'on y retourne. Maintenant, faut-il encore que ça plaise au public, ce qu'on espère, ce qu'on croit d'ailleurs. J'en suis tout à fait persuadé, parce que vraiment, c'était un tournage vraiment agréable, mais ça suffit pas. Il faut vraiment que la mayonnaise prenne. Voilà, si les spectateurs sont au rendez-vous, ma foi, on a une bonne probabilité de continuer. On verra. J'en serais enchanté. Enfin, on serait tous les trois tout à fait heureux de ça, oui.
Et puis un retour sur TF1 en même temps quand même, la chaîne qui t'a vu dans ce rôle de Jacques Beaumont pendant plus de 25 ans. On a tous grandi avec toi Bernard, et c'est vrai que c'est un retour sur la chaîne qui vous a porté pendant des années dans une famille formidable.
Bah, ça me fait plaisir qu'il me fasse à nouveau confiance, et dans des choses différentes comme ça. Ça veut dire que c'est un signe de confiance et que je fais un peu partie de la maison aussi. Alors ça me fait très plaisir, d'autant que j'ai derrière notre série tourné un conte de Noël qui sera aussi je crois tout à fait épatant, et donc on verra tout ça, c'est l'avenir qui nous dira si ça a des suites. Bon, voilà.
Et tu reviendras justement à Noël nous en parler justement de ce film de Noël, Bernard. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Enquête en famille débarque sur TF1 avec les 2 premiers épisodes inédits, en tout cas de cette toute nouvelle série avec Naïma Rodrigue, Clémentine Célarier. On va beaucoup rire, et puis en même temps des enquêtes passionnantes qu'on va découvrir avec un très beau cast. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous, et on se retrouve à Noël.
À Noël, voilà, on va passer les bonnes fêtes.
Merci à toi, à très vite.
À très vite, merci beaucoup.
On va reprendre les bonnes habitudes. J'ai 32 ans, je suis capitaine de police.
Tu viens d'être obnu. Quelqu'un est mort?
C'est qui? Je te jure, j'adore mes parents, mais là, je suis au bout de ma vie.
Tu crois que c'est un incendie criminel?
T'emballe pas, chérie. T'emballe pas.
Ils étaient en train de cambrioler la maison de mon voisin.
Comment ça?
Ils ne cambriolaient pas, je suis renseigné.
Ah oui.
Sans déconner.
Ouais.
Non, mais vous pensez que mon métier, c'est de faire du point de croix? Vous ne bougez plus un pied, une main, une oreille. Vous ne faites plus rien, ok?
Merde. Qu'est-ce que vous foutez? Mais t'es complètement dingue!
Et toc! Comment ça s'appelle quand on veut tuer ses parents? Un parenticide?
Inédit, Enquête en famille, votre nouvelle série, bientôt sur TF1.
Allez, c'est notre spécial Bistronomia. La série vient tout juste de débarquer sur France.tv sur un format de 9 fois 26 minutes. La créatrice Marie-Sophie Chambon est avec nous. Bonjour Marie-Sophie.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On a un des réalisateurs également qui est avec nous, Anthony Georges. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci à tous les deux en tout cas d'être là pour nous faire découvrir cette série. Vous êtes rejoints par Yoa et Louise tout à l'heure, justement vos comédiennes. On est vraiment avec Bistronomia dans l'univers de la cuisine, mais on va y découvrir comment de jeunes gens vont s'affranchir un peu des codes pour essayer de réinventer un peu quelque chose d'un petit peu différent. Qui a eu l'idée déjà de base? C'est Marie-Sophie, je crois, tant que créatrice.
Alors, c'est pas mon idée à moi. Moi, j'ai rencontré Marine Bidot et Alexandre Camas, qui sont les deux créateurs du Fooding, qui est un guide super révolutionnaire à l'époque, puisqu'il est né sur magazine Nova dans les années 2000. Et c'est un peu eux qui ont lancé la bistronomie de façon journalistique. Donc, eux, ils cherchaient, avec Charles Gilibert, le producteur, un ou une autrice pour écrire une série qui parlait de ça. Voilà. Après, ils m'ont fait rencontrer d'abord beaucoup de chefs. J'ai rencontré des hommes, des femmes, un peu plein de chefs qui étaient à l'origine de la bistronomie. Je les ai rencontrés dans leur restaurant, c'était passionnant. Et d'après de ces rencontres, j'ai fait ce qu'on appelle une bible qui expliquait un peu tous les personnages, ce qui se passe dans la série, des portraits. Et ensuite, on a eu un premier diffuseur qui a aimé la série, qui était Canal+, qui à l'époque l'a acheté. J'ai engagé Judith Havas et Anaïs Carpita pour m'aider à écrire la suite. Donc on a fait une sorte d'équipe d'écriture, voilà, avec des femmes. Et l'envie, c'était de raconter aussi l'histoire d'une femme chef qui cuisine, parce que bon, après je redis la même chose, mais ce que j'aimais beaucoup, c'était que on puisse filmer une femme en cuisine qui travaille, parce qu'on a beaucoup vu de séries sur des ou de films sur des hommes chefs, mais assez peu de femmes. Et la cuisine, bizarrement, bah, il y a beaucoup de femmes dans les cuisines de tous les jours, mais assez peu à des postes prestigieux et dans les cuisines gastronomiques. Donc voilà, l'idée, c'était de filmer cette jeune femme qui essaye de survivre dans la gastronomie patriarcale, violente, et de réinventer une autre façon de faire la cuisine, plus abordable, pas du tout élitiste comme l'était la gastronomie. Voilà.
Et puis peut-être avec plus de bienveillance aussi, peut-être plus soutenable aussi pour ses équipiers.
C'est ça. Moi, les chefs que j'ai rencontrés, notamment Bertrand Grébeau, qui a un restaurant étoilé qui s'appelle Le Septime, lui-même était dans une quête de faire autrement. Et il me disait, moi, j'ai des fois du mal, tellement la pression est forte en cuisine, que j'ai du mal à ne pas maltraiter les gens avec qui je travaille. Et en même temps, avec une vraie envie de faire autrement. Et c'était assez beau, en fait, de me dire, mais comment est-ce que... Il me raconte... disait comment est-ce que je peux faire autrement avec ce que j'ai reçu, c'est-à-dire que lui, eux, tous, plein de chefs de cette époque-là ont grandi dans la violence, ont appris leur métier dans la violence, comment est-ce qu'on essaye de faire autrement?
Est-ce que c'est pas l'avenir s'ils veulent arriver à recruter justement des jeunes cuisiniers qui vont avoir peut-être une autre façon, une autre approche de travailler? Ça le représente très bien en fait, hein, Bistronomia, parce qu'on y découvre ces destins de ces trois jeunes gens, Johanna, Amandine et Vivion, et qui gravitent dans ce milieu. Alors évidemment, quand on veut devenir chef, on est prêt à beaucoup de concessions, mais après ça peut devenir vite de la maltraitance, et c'est ça aussi, on est dans un domaine quand même très particulier. Un domaine particulier à filmer aussi. Quand on est réalisateur, c'est une espèce de chorégraphie, filmer des cuisines.
Oui, c'est vrai. C'est une chorégraphie, c'est un espace hyper particulier. C'est surtout une énergie, je crois que plus une chorégraphie, c'est une énergie. Et c'est une énergie que tu sens quand tu vas dans une cuisine et qui t'envahit et qui c'est une vague. Pour moi, j'ai l'impression que les premières fois où on s'est retrouvés en cuisine sur les coups de feu, on s'est pris cette vague. Eux, ils sont habitués, ils tiennent. Pour quelqu'un de normal, c'est une tempête, quoi. Et donc, c'est cette énergie, surtout au-delà de la chorégraphie, qu'on voulait retrouver avec la mise en scène. Et que ça ait cette force et cette brutalité, quoi.
Alors, c'est vrai que l'histoire est développée pour l'instant sur 9 fois 26 minutes. Est-ce que ça pourrait déboucher sur une suite? Est-ce qu'en tout cas, moi qui n'ai pas vu la fin, hein, je vais être honnête, j'ai vu les deux premiers épisodes. Est-ce que la fin est fermée ou est-ce qu'on peut déboucher peut-être sur une saison 2?
Alors, la fin est fermée, mais elle peut tout à fait s'ouvrir.
Ça, c'est pas mal.
L'idée, c'était quand même qu'on raconte les balbutiements de cette révolte-là en cuisine et qu'on raconte comment est-ce qu'on essaye de faire autrement. Donc, l'idée, c'est qu'on commence dans une cuisine gastronomique et avec tout le pourquoi on a envie d'en sortir. Et le dernier épisode, c'est une journée, enfin, c'est un service dans le restaurant de leurs rêves, mais avec tout ce que ça a d'hyper compliqué, parce que financièrement, c'est compliqué, parce que physiquement, c'est compliqué. Donc, on est un peu en adrénaline, 200% dans ce dernier épisode. Après saison 2, oui, il y a encore tellement de choses à raconter. Le mouvement a eu des hauts, des bas. En fait, il y a tellement de choses aussi sur la presse à raconter, parce que la série elle raconte aussi comment la presse, comment des journalistes ont essayé de créer aussi autrement une façon d'écrire un peu autre via les blogs, via internet. La série elle raconte aussi comment on s'émancipe aussi des guides et de la presse gastronomique de l'époque.
Est-ce qu'il y a une scène qui était particulièrement compliqué, difficile peut-être à filmer?
Il y en avait plein, mais bah il y a des scènes de violence. Je pense que c'était les plus difficiles, de violence sexuelle aussi dans la série. De toute façon, il y a beaucoup de scènes de violence et c'était clairement les plus difficiles parce que justement il faut se faire violence en tant que metteur en scène pour oser aller à chaque fois, oser rentrer dans un territoire qu'on aimerait ne pas voir, mais qu'il faut mettre à jour. Et donc c'est les plus durs, et je pense que pour les comédiens on en parlera, mais j'imagine qu'aussi pour elles c'était probablement les plus difficiles. Elles ont dû être faites avec beaucoup de, justement, de bienveillance et d'écoute et de communication, parce que c'est, même pour les comédiens, c'est toujours un univers qui est difficile à jouer.
À appréhender, effectivement. On va en parler. Yoa Angelis Chikaya va venir nous rejoindre, avec Louise Labeck également, qu'on avait découvert dans le premier film de Nathan Brosioni, Tony en famille. Elle va être de retour dans quelques instants. Ensuite, on écoute la télé, mais on va déjà écouter la bande-annonce de Bistronomia qui vient de débarquer sur France.tv, bientôt sur France Télévisions également. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci beaucoup.
T'en as marre de griller de la viande en ce moment? Tiens, t'as qu'à flamber ça.
Et bon appétit, bien sûr.
Tu crois que chez toi je vais les sortir de mon cul?
Vous avez raison, les gastro-classiques, c'est has-been.
Une autre idée de la cuisine.
On pourrait ouvrir un vrai resto pour servir autre chose que des bourges.
Tu pourrais être la chef.
Et une même envie de la partager.
On va le monter, ce resto. Je sais pas encore comment, mais on va trouver là.
À mort, la vieille gastronomie.
Le trio étoilé de Bistronomia, à partir du 25 septembre sur France.tv.
Allez, chose promise, chose due, on revient pour notre spécial Bistronomia. On rappelle que ça vient tout juste de sortir sur France.tv en 9 fois 26 minutes. Vous allez découvrir donc les destins de Johanna, Amandine et Vivian. Et on a justement deux de nos héros qui sont avec nous, de nos héroïnes, je dirais même, avec Yoa Angelis Chikaya et Louise Labeck, qu'on retrouve après Tony en famille il y a quelques années. Louise est de retour également dans Chute, on écoute la télé. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, on va parler évidemment plus de Johanna et d'Amandine, hein, dans ce Paris en octobre 2005. On a planté un peu le décor avec Marie-Sophie et Anthony, puisqu'on parle évidemment du milieu de la restauration, un milieu très masculin, pas facile, qui est très rentre-dedans. Et en fait, ces trois amis vont décider de réinventer un peu la restauration à leur façon, pour qu'elle soit déjà aussi plus acceptable peut-être dans le travail. Moi, je trouve que c'est un bel espoir aussi et une belle façon de peut-être donner envie aux jeunes aussi de venir dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en lisant le scénario, par exemple, Yoa?
Je pense que la bistronomie, c'est déjà bien en développement, notamment à Paris. Il y a plein de petits restos bistronomiques dans le 11e qui proposent notamment des... Enfin, même dans plein d'autres arrondissements, qui proposent des assiettes à partager. Par exemple, à 11-12 balles, les petites entrées qui vont jusqu'à 15-20 euros maximum. Donc, il y a déjà une influence. Et oui, je pense que la série va beaucoup plus influencer peut-être les jeunes qui ont plein de projets en tête, qui ont peur de se lancer et qui rêvent d'être propriétaires de leur propre resto, de leur propre carte et de leurs propres idées.
Ce monde, Louise, pour toi, comment tu t'y es préparée en tout cas?
Bah, moi, je pense qu'il y avait quelque chose d'évident avec le personnage d'Amandine. C'était une jeune femme qui me touchait déjà sur le papier. Puis en fait, en lisant les épisodes, j'ai compris au fur et à mesure que c'était aussi une fille qui avait beaucoup d'ambition, qui avait des rêves et qui s'autorisait à rêver. Même si elle va vivre des violences, des choses qui sont compliquées dans l'histoire, elle va pas se laisser abattre, en fait. Et je pense que ce qui est fort aussi, c'est qu'ils vont se rassembler avec Amandine, Johanna et Vivian. Et ils vont petit à petit créer leur trio et puis ils vont s'autoriser à vouloir rêver, à essayer de changer les codes, un peu bousculer les règles qu'il y avait, qu'il y a toujours eu un peu dans la cuisine, même ailleurs. C'est assez beau dans le sens où ça reflète aussi une nouvelle génération, une jeunesse qui se laisse pas aller dans ce qu'il y a de plus sombre aujourd'hui. Je pense que quand on regarde la série, il y a une première grille de lecture qui est à la fois tragique parce que ce qui se passe c'est terrible et c'est hyper actuel, et en même temps ça donne plein d'espoir aussi parce qu'ils se laissent pas abattre et ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont envie de bousculer les choses et de réinventer la cuisine et leur façon de faire quoi. Donc voilà.
Alors même si le propos est dur, il y a aussi quelque chose de très lumineux dans le destin de ces trois personnages.
Je suis tout à fait d'accord. On passe du rire aux larmes, mais même dans les épisodes même. Au début, je pense que pour Amandine et Johanna, c'est un peu compliqué. Elles s'apprivoisent au début, pas du tout. Je pense que c'est très mal parti, comme tu disais.
C'est mal barré entre les deux quand même.
Il y a limite un soupçon de haine, mais je trouve qu'on a bien réussi à faire basculer ça en de la confiance, baisser sa garde, croire en l'autre et qui valide, c'est parce que c'est de la validation en vrai, des compétences de l'autre et je trouve que c'est beau.
Johanna a un fort tempérament hein, par rapport justement au personnage d'Amandine qui est un peu plus effacé au départ et qui va se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Johanna, direct, est quand même quelqu'un de très très cash dans ce personnage. Comment tu le définirais, toi ?
C'est un personnage qui a une armure de métal mais avec un petit cœur tout tendre à l'intérieur. C'était un vrai challenge d'essayer d'apporter cette douceur dans un personnage si dur et si
abrupt.
Abrupt, en colère, révolté, et je pense que j'ai réussi grâce à mes appuis de jeu, à mes partenaires de jeu, à casser la croûte pour réussir à avoir le fondant à l'intérieur.
Je trouve que c'est bien dit. Louise, alors toi, ton personnage, justement, au départ, est un petit peu effacé, va se révéler. On est complètement dans l'autre sens. On a un personnage cache celui de Johanna qui, petit à petit, va s'adoucir. Et toi, c'est plutôt le contraire.
Bah oui, parce que je pense qu'aussi, elle prend confiance. Je pense qu'une fois qu'il y a des risques qui ont été pris, il y a un relâchement aussi. Et je pense qu'il y a une colère aussi en Amandine, mais qui est plus... Enfin, qui est aussi contenue, d'ailleurs, parce que Johanna aussi contient sa colère et ça peut déborder par moments, mais elle essaye vraiment de la contenir. Et je pense qu'Amandine aussi essaye de la contenir, mais il y a un moment, il y a un truc où elle aussi, elle en a marre, elle a envie que ça change, elle a envie de s'accomplir aussi en tant que jeune femme. Et je pense que ce qu'elle va vivre va profondément changer sa personne. Et un peu comme nous dans la vie, on vit des choses, on change, on évolue, on essaye de pas reproduire les mêmes choses. Et puis des fois, bah ça marche, des fois ça marche pas. Et il y a quelque chose qui est évident, c'est ça match. Ça matchait pas au départ, mais ça match parce qu'en fait, il y a des ressemblances dans ce qu'elles vivent. C'est pas la même chose, c'est pas au même degré, mais elles se comprennent et ouais, c'est hyper humain en fait comme rencontre, je pense.
Est-ce que ça a changé un peu votre regard sur le métier de faire cette série ?
Sur le métier de la cuisine ou le métier d'acteur ?
Les deux, tiens, pourquoi pas ?
Bah, moi je sais que le personnage de Johanna m'a appris beaucoup. Mais le personnage d'Amandine aussi, sur la colère, l'acceptation de l'autre, la compréhension de l'autre, le travail en cohésion et la douceur. Pour ce qui est de la cuisine, on a, comme toi je pense, hein, découvert ce que c'était que d'être dans le stress, ce que c'était que de vouloir atteindre la perfection de manière constante.
Dans l'urgence, la plupart du temps.
Dans l'urgence, quitte à oublier son respect de soi, son estime de soi, et même les douleurs physiques. Et je trouve que ça peut s'appliquer au métier d'acteur et à plein d'autres métiers. Parce qu'il y a toujours ce truc de perfectionnisme, etc. Où, par exemple, ça part très loin, notamment avec Heath Ledger qui a fini en dépression et qui est pour moi le meilleur Joker.
Mais en fait, ouais, je vais rebondir sur ça. En fait, je pense que que ce soit dans le cinéma ou dans la cuisine, il y a quelque chose où, ouais, il y a cette volonté de perfection. Et comme je disais, est-ce que la fin justifie les moyens dans le sens où jusqu'où on est prêt à aller par passion, par ambition et dans ce qu'on aime. Et je pense que là, c'est vraiment leur passion dans la série. C'est pas quand ils disent qu'ils veulent faire un restaurant. En fait, en réalité, Amandine, elle ne blague pas du tout quand elle dit ça. Et je pense que il y a quelque chose dans le cinéma aussi qui ressemble dans le sens où ça peut être chaotique par endroits. En préparation, des fois sur les tournages, c'est compliqué. Même pour les artistes, des fois, avant de passer sur scène, il y a de l'attente, il y a du bordel. Et à la fin, il y a une certaine harmonie quand même qui sort. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, quand on va au restaurant, on se rend pas forcément compte du off. On reçoit notre assiette, on est hyper content. Même des fois, on est un peu chiant, on est là, on chipote pour des petits trucs. Alors que eux, en cuisine, ils vont... Putain, ça va être compliqué, quoi. Et je pense que ouais, ça part d'un chaos et en même temps, à la fin, ça peut être très beau. Donc c'est des endroits où il y a des grands moments de bonheur dans le cinéma et dans la cuisine. Et il y a des grands moments de détresse et de violence, quoi.
Ouais.
Voilà.
C'est bien ce qui est dépeint en découvrant des séries comme la vôtre, où Ici Tout Commence effectivement aussi, qui est vraiment dans ce monde de la cuisine. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Et puis Bistronomia, ça vient tout juste de sortir sur France.tv, c'est bientôt sur France Télévisions. N'hésitez pas à le découvrir. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Moi qui t'aimais, le film tant attendu sur la romance entre Signoret et Montand, avec une réalisation signée Diane Curis, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Diane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis on est très heureux de le retrouver aussi parce qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer sur Les Miens, son film, au festival de Sarlat. C'est Rojdi Zem qui est avec nous, qui joue Yves Montand. Bonjour Rojdi.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors, comment est née l'idée de faire ce biopic, en fait, qui est vraiment centré sur cette histoire d'amour entre Signoret et Montand, une histoire d'amour tumultueuse, et qu'on nous raconte au fil de ce film?
Moi, j'aime bien les films d'amour en général. Donc, une fois de plus, je me suis penchée sur une histoire. Alors, celle-là, elle est particulière parce que c'est deux icônes, deux acteurs très connus, deux personnalités très aimées à leur époque et qui ont vécu 30 ans d'amour et de tumulte, mais surtout d'amour et de complicité. Et ça, je sais pas, ça m'a intéressée. J'ai été happée par le sujet en lisant, en écoutant les interviews, en regardant tout ce qu'il y a comme image, en écoutant les proches. On ne sait pas pourquoi on fait un film, hein. On le fait pour le voir certainement.
C'est vrai que Yves Montand, on s'aperçoit dans le film, c'était quand même un homme à femme qui aimait beaucoup les femmes et qui, malgré tout, avait cet amour inconditionnel pour Simone. Et Simone, plus que tout, l'aimait. Elle savait, elle, en tout cas, ce qui se passait dans le couple, mais elle en souffrait. Souvent en silence, mais on s'aperçoit que ce couple, l'histoire n'était pas si simple que ça, et à la fois c'était un peu monsieur, madame, tout le monde en dehors de la scène, en dehors des plateaux de cinéma. C'est frappant de voir un destin pareil.
Non, mais c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on connaissait la vie publique de ces deux personnages emblématiques, on connaissait un peu moins leur vie privée, il y avait des rumeurs évidemment, et ce qu'on connaissait pas du tout, c'était leur vie intime. C'est dans cette grammaire-là que s'inscrit le film de Diane, c'est-à-dire que on rentre dans l'intimité de ce couple, et finalement, c'est une façon aussi de constater que finalement, c'était un couple qui ressemble à tous les autres. Et c'est là où le film raconte la difficulté de s'aimer, de vieillir ensemble, d'accepter des sacrifices, d'accepter parfois des humiliations, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est une histoire à travers laquelle tout le monde peut se reconnaître. Montand et Signoret, finalement, ne devient qu'un prétexte à raconter ce qu'est l'amour, la violence de l'amour. Aimer, c'est quelque chose de violent, c'est beaucoup de souffrance.
Diane, Rojdi et Marina Foïs se sont imposés, tous les deux, face à ce Signoret et cette Montand dont vous rêviez.
Il s'impose dans le film. Là, maintenant que le film est fini, je peux le dire, je pense que je me suis pas trompée. C'est toujours un pari de faire un casting, de dire, ah, c'est lui qui va jouer, c'est elle. Quand j'ai écrit, je voyais les vrais personnages, évidemment, dans mon imaginaire. Et quand j'écris tous mes films, d'ailleurs, je ne pense pas à des acteurs, je vois les vrais personnages, je les imagine. Puisque souvent, j'écris des choses assez autobiographiques, ou bien des personnages qui ont existé. Et à un moment, il faudrait que cette image vraie, cette image que j'ai dans la tête, vienne se superposer à l'image d'un acteur. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai imaginé Marina, j'ai imaginé Rojdi, et je leur ai proposé les personnages. Ils ont dit oui, ça a été formidable parce que j'y croyais vraiment. Et puis on a fait des lectures, on a travaillé, et le résultat, c'est que ce qui est intéressant, sur le papier, on dit, oh là là, Rojdi Zem, Marina Foïs, pour incarner ces deux icônes, mais ils ressemblent pas vraiment. Et c'est ça qui est formidable, c'est que maintenant, quand ils sortent du cinéma, ils disent, bah ouais, c'est eux. Voilà. On oublie complètement, au fur et à mesure du déroulement de l'histoire et du film, on oublie les vrais, c'est eux les vrais.
Oui, au fur et à mesure, on rentre effectivement dans l'intimité de ce couple. Et ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est que le film démarre vraiment par la transformation de Marina et de Rojdi, vous verrez. Et puis après, on les voit se transformer en Signoret et Montand, et l'histoire part comme ça. Puis il y a un savant mélange aussi d'images d'archives dans le film qu'on verra, où on verra évidemment les vrais Signoret et Montand sur des photos, sur des choses comme ça. Comment on se prépare à un rôle pareil, Rojdi? Est-ce qu'on hésite un petit peu, quand on voit la complexité que peut incarner Montand, et puis surtout aussi le côté patrimoine quand même du cinéma français aujourd'hui?
Oui, on hésite, très sincèrement on hésite, non pas que la chose n'est pas attirante, mais on se demande si on est à la hauteur, on se demande si on va pouvoir y parvenir, et puis ça passe par des échanges, du travail avec Diane, avec ma partenaire, avec Marina, et on instaure comme ça une sorte de climat de confiance, parce que le regard du metteur en scène devient essentiel dans un choix comme celui-là. Et je salue aussi la démarche de Diane par rapport à ça, qui n'a effectivement pas cherché à trouver des espèces de sosies de Signoret et Montand, elle a plutôt cherché des acteurs, et de fait, on n'est pas dans le mimétisme, mais on est dans le jeu. Et c'est là où on s'est beaucoup amusé, c'est là où on a cherché notre grammaire, c'est là où on a trouvé aussi une forme de confort, parce que comme vous le dites, il y a une scène, un prologue au film qui nous permet de s'installer, et donc du coup de devenir non pas une incarnation de Montand et Signoret, mais une évocation de ce couple. Et à partir de ce moment-là, voilà, tout est possible et on arrive à se libérer dans le jeu, dans le travail et dans la rigueur. Et donc voilà, donc c'était pour moi un plaisir inouï de d'interpréter mon temps.
Et on essaie de prendre un petit peu la voix, essayer de prendre un peu ses intonations. On regarde, j'imagine, ses films, on écoute ses chansons pour s'imprégner.
Oui, c'est ça. J'ai surtout regardé les parties où il s'exprimait en interview. Il y en a beaucoup, on en trouve beaucoup dans le site de l'Institut National des Archives. C'était plus pour m'intéresser un peu à ce qu'il était, à la façon dont il se comportait, la façon dont il s'exprimait. Et ensuite, je dirais presque de façon involontaire, on finit par s'imbiber. Et donc d'agir un peu comme une éponge et on finit par choper, comme on dit, des trucs de mon temps et qu'on distille comme ça, ici et là, dans le jeu et dans le travail, avec toujours le regard de Diane qui est important, parce que ce qui est toujours très difficile, c'est de trouver l'équilibre entre l'imitation et l'interprétation. Et la frontière est très étroite. Donc le regard de Diane, pour moi, il devient primordial à ce moment-là.
Il faut trouver effectivement le juste équilibre. Moi qui t'aimais, ça sort mercredi au cinéma. On va écouter la bande-annonce, on revient juste après. Avec Diane Curis et Roche Dizem qui sont nos invités aujourd'hui pour notre spécial. À tout de suite.
Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez ?
On s'aime et on s'aime bien.
Alors tu dirais quoi toi, hein ? C'est quoi le secret de notre couple ?
Bah, je sais pas, j'ai pas de secret moi.
Oh, t'es chiant, tu joues pas le jeu.
Et vous vous aimez encore ?
Tu sais... Quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie.
T'es beau.
C'est juste une chose. Et tu peux pas vivre sans elle.
Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous. Nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle.
Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge ?
Oh bah évidemment. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs ?
On a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil.
Mais c'est vous, là. Avec Marilyn.
T'en auras fait baver celle-là, hein.
J'aurais pu la tuer.
Allez, de retour pour notre spécial Moi qui t'aimais, ça sort mercredi au cinéma, le nouveau film de Diane Curis qui raconte cette histoire d'amour tumultueuse et belle à la fois de Signoret et Montand. C'était en fait un peu à l'époque, on a l'impression qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et malgré tout... On a l'impression que Simone était au courant un peu de tout ce qui se passait en dehors quand Yves Montand était en tournage. Je me rappelle qu'il y a une réplique où il dit « t'auras qu'à acheter des journaux, par exemple, quand elle doute ». Il y a tout plein de choses comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça change tellement tout.
Bah, c'était des gens très connus et on parlait d'eux dans les journaux, on parlait d'eux dans la vie. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs comme ça, surtout un couple d'acteurs. C'était des gens dont la parole comptait. Ils étaient très engagés politiquement et on suivait, on les écoutait, ils influençaient l'opinion, vraiment beaucoup. D'ailleurs, à un moment, bon, j'en parle pas dans le film parce que c'est vraiment la fin de ça passe après le film, Montand a eu la tentation de s'engager en politique. Les gens le poussaient autour de lui. Et Simone Signoret se moquait un peu. Elle disait, oh, mais qu'est-ce qu'il va aller se faire président de la République? Mais ils étaient une voix qui portait. Je crois pas qu'aujourd'hui, il y ait vraiment des acteurs dont la voix porte. Et alors, elle s'exprimait. Ils étaient pas forcément d'accord. Ils étaient assez en harmonie dans leurs idées politiques, mais je pense que c'est unique dans l'histoire, il me semble-t-il, un couple d'acteurs comme ça qui est si engagé, si pertinent. Ils se sont fâchés avec leurs amis quand ils sont allés en URSS, en URSS, et qu'ils sont revenus désabusés, bah, tous leurs amis communistes leur ont tourné le dos. Ils ont pris des risques. Oui, engagé est le mot. Et ça c'est impressionnant, ça n'existe plus. Moi, je trouve que c'est intéressant de les... Et en même temps, ils s'aimaient, ils se disputaient comme n'importe quel couple.
Ils se rabibochaient,
ils lisaient les journaux, ils étaient au courant de tout et on leur demandait sans arrêt de signer une pétition pour ceci, d'aller marcher pour autre chose. C'était des gens d'un autre temps, mais en même temps, l'amour, il n'est pas d'un autre temps. L'amour, il est... universel, et ça se passe toujours à peu près de la même façon. Et ce que disait Rochdi juste avant, c'est intéressant de voir, on a mis la loupe sur les dernières années du couple, on n'a pas fait un biopic où on raconte leur naissance, leur rencontre. Et
c'est basé sur 15 ans à peu près.
C'est basé sur 12 ans, exactement, et dans ces années-là, le passé est présent, le passé est là. On comprend comment ils se sont rencontrés, on comprend l'aventure de Montand avec Marilyn Monroe qui a été la vraie fêlure du couple. Ils ont 40 ans, ils sont au sommet de leur art, au sommet de leur gloire. Elle vient d'avoir un Oscar à Hollywood, c'est la première femme française qui a eu un Oscar. Et puis tout à coup, pouf, la nouvelle arrive, elle est à Rome en train de tourner et dans les journaux, elle lit Montand, Marilyn, le couple, est-ce qu'il va la quitter? Et ça, bon, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais la presse est là pour le dire. Et c'est un couple qui a vécu des hauts, des bas, et des, mais comme tous les couples. Peut-être que c'était un tout petit peu plus public, c'est tout.
Diane, est-ce que vous avez pu montrer le film à Catherine ou Carole?
Catherine Aéré n'a pas vu le film, elle n'a pas voulu le voir. Je pense qu'elle le verra, j'imagine qu'elle aura cette curiosité. Elle m'a donné l'autorisation d'utiliser la couverture de La Nostalgie n'est plus ce qu'elle était, qu'on montre à un moment dans le film. Carole Amiel a vu le film, oui, je pense qu'elle a été très touchée par l'histoire. Elle va le montrer à Valentin, enfin elle était très très émue. Puis je l'ai montré aussi à Nadine Trintignant, qui est un des personnages du film. Enfin, je pense que ceux qui les ont connus, qui sont encore en vie, vont être curieux de voir le film, oui, j'imagine.
On rentre dans la peau d'Yves Montand pendant un mois, deux mois, trois mois de tournage, je sais pas combien de temps ça a duré, mais est-ce qu'aujourd'hui on sort pas de la peau du personnage avant la fin du tournage, ou quand même chaque soir on arrive à s'extérioriser quand même un peu?
C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, parce que moi j'ai toujours le sentiment de sortir du personnage, même le soir à la fin de la journée quand on tourne. Mais votre entourage vous rappelle systématiquement que il y a des restes. On s'exprime comme lui, on agit comme lui. Mais on n'est pas conscient de ça. Je crois que ça finit par disparaître, mais par petites touches comme ça avec le temps. Voilà, c'est quelque chose qui nous échappe complètement et qu'il ne faut surtout pas chercher à maîtriser.
C'est vrai que Marina est très impressionnante aussi, hyper émouvante dans plein de scènes. Quand on est derrière la caméra, qu'on voit deux acteurs comme Rushdie et Marina jouer comme ça, incarner ces deux personnages qui font partie du patrimoine français. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que réalisatrice, vous, qui avez un bail de film derrière?
Ben, on se dit qu'on s'est fait un cadeau mutuel. Voilà. J'ai l'impression de leur avoir fait un cadeau en leur donnant ces rôles-là, et ils me le rendent bien. C'est-à-dire vraiment, ils ont été jusqu'au bout, ils ont appris le Montand, le Signoret d'une certaine façon, parce qu'ils avaient tout le temps des oreillettes dans les oreilles. En permanence, ils étaient imbibés, imprégnés, et puis après, ils restituaient autre chose. C'était eux, les personnages à travers eux. Donc c'est un grand plaisir. On a eu un tournage très très heureux. Ça fait toujours bête de dire ça, mais en réalité oui, on a eu un tournage très court mais très heureux. On allait vite, en plus ils s'entendaient bien, il y avait une complicité. Donc ça, c'était très important. Donc c'est un grand plaisir, et puis j'ai eu une équipe aussi technique formidable.
Il fallait une confiance pour le coup mutuelle entre Marina et Rushdie qui fallait qu'il transpire à l'écran, quoi. Ça c'est sûr.
Et parce qu'entre Marina et moi, c'est une complicité qui est née maintenant il y a un peu plus de 15 ans. Donc c'est une très grande amie dans la vie, c'est quelqu'un que je vois très régulièrement.
C'est rassurant.
Oui, c'est rassurant, mais surtout, il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être créé, qui n'a pas besoin d'être fabriqué. Il y a quelque chose qui existe déjà, et donc on n'a pas besoin d'appuyer là-dessus. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, mais avec laquelle je ris beaucoup aussi, elle a beaucoup d'humour, et j'aime sa rigueur. Moi, je me souviens, en préparation, elle lit constamment le scénario, elle propose des idées, elle vient avec des choses qu'elle a pu lire sur Simone ou sur Montand, elle propose tout le temps, peut-être même un peu trop. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça avec des acteurs ou des actrices qui sont complètement impliqués corps et âme sur un film, parce que ça tire le film vers le haut. Et Marina est de cette trempe-là, de ces actrices.
Ça se sent. En attendant, Moi qui t'aimais, ça sort mercredi au cinéma. Merci beaucoup, Diane. Merci, Rushdie, d'avoir été avec nous pour en parler. Vous allez découvrir un pan de l'histoire du cinéma français à travers cette fresque qu'on va découvrir donc mercredi au cinéma. Merci à tous les deux. C'est un vrai film de cinéma pour le coup, vous allez voir. Merci, Diane. Merci, Rushdie. À bientôt.
Merci à vous.
Merci à moi.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais.
Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que c'est fini. T'entends?
Et je t'aimais.
T'entends ce que je dis?
Nous vivions tous.
Je te demande pardon.
Les deux ensemble.
Arrête! Ouais, ouais.
Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, du beau monde, oui, avec Elsa Lieberstein et Didier Bourdon, avec également Vinciane Miro, la réalisatrice du film C'était mieux. Demain, Le Parfum du Bonheur également à l'honneur avec Baya Kasmi, la réalisatrice, qui sera accompagnée de Caroline Anglade notamment, et toute une partie de l'équipe. On aura le plaisir de recevoir également Thibaut de Montalembert pour la suite de Montmartre. Que de belles choses.
Le rendez-vous des stars.
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.